Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio CRS, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Quelle est l'importance des consultations prénatales pour l'accouchement? Ou encore, quelle est l'incidence de l'absence de consultations prénatales sur l'accouchement? Voilà la double interrogation qui est au cœur de cette édition de Santé pour tous. Pour en parler, nous recevrons le docteur Menant Augustin, chef de district de santé de Maroua 1er et point focal de la santé de reproduction dans la région de l'extrême nord. La mise en onde de cette émission est assurée par Maxine Noir à la technique, David Payan à la coordination et moi, Steph Ebi, au micro de présentation. Courte respiration, mesdames, messieurs, et on se retrouve juste derrière pour démarrer. L'utilisation optimale des services de consultation prénatale, en abrégé CPN, est une assurance non seulement pour le bon suivi des grossesses des femmes, mais aussi et surtout pour le bon déroulement de l'accouchement. A contrario, le non-suivi des CPN est un facteur aggravant du taux de mortalité maternelle et infantile. Dans la région de l'extrême nord, l'on a recensé au cours de l'année 2022 en moyenne 67% des femmes ayant bénéficié de la première CPN et seulement 37% de femmes ayant bénéficié d'un accouchement assisté. C'est dire que le combat à parcourir pour parvenir à réduire à sa portion congrue les accouchements à domicile reste encore très long, de même que le combat pour intéresser les femmes enceintes au suivi systématique des CPN. En effet, plusieurs facteurs socio-économiques et culturels entravent encore ce chemin. Dans certaines communautés de notre région, par choix personnel, par décision du conjoint ou de l'entourage, les femmes enceintes ne se rendent pas dans les formations sanitaires, ni pour les CPN, ni pour l'accouchement. Pour plusieurs d'entre elles, ce n'est qu'en cas de complication lors d'un accouchement à domicile qu'elles se résoudront à finalement se rendre dans une structure médicale et très souvent, le temps perdu aura sérieusement compromis le pronostic vital de la parturiente ou de son bébé et parfois même des deux. Comment expliquer le faible recours aux services de maternité dans notre région? Quelle est l'importance du suivi des consultations prénatales pour l'accouchement? Quelle est l'incidence de l'absence de consultations prénatales sur l'accouchement? Nous en parlons, mesdames, messieurs, dans un court instant avec notre invité. Mais avant, je vous invite à écouter ce Vox Pop dans lequel nous avons recueilli l'avis de quelques personnes sur l'impact des CPN sur l'accouchement. Écoutons-les.
Les consultations prénatales sont les visites dont les femmes partent faire à l'hôpital quand elles sont enceintes. Elles doivent le faire au début de la grossesse. Bon, les consultations prénatales, pour ma part, permettent de déterminer si l'enfant est en bonne santé et si l'évolution de la grossesse se passe bien. Et parfois, ils peuvent déterminer le jour ou bien la période, le mois dans laquelle la femme va accoucher. Et quand elles ne le font pas, elles ne le savent pas et elles ne connaissent pas les risques qui sont liés à la grossesse. L'accouchement doit se faire à l'hôpital. Dans ma communauté, pour celles qui ont les moyens, elles accouchent à l'hôpital. Et celles qui n'en ont pas, elles accouchent à la maison. Elles se font aider par les vieilles femmes du village. Concernant mon point de vue, je pense que cela n'est pas sain pour la femme et pour son bébé d'accoucher à la maison.
D'après moi, consultation prénatale, c'est une phase préparatoire pour attendre son enfant prochain. Suivre l'évolution de l'enfant, l'évolution de l'embryon, du fœtus, de la grossesse jusqu'à terme. Une femme enceinte doit faire peut-être quoi, on fera visite prénatale. C'est important dans le sens où ça permet de voir l'évolution, s'il y a anomalie, de rectifier pour éviter les malformations congénitales. Elle est suivie, elle a les médicaments, qu'on lui donne les conseils, les échographies qu'elle fait, elle est bien suivie. S'il y a le semis d'aller dans les centres de santé, d'aller à l'hôpital pour accoucher, que de le faire à la maison, c'est mieux d'aller à l'hôpital. Je peux dire comment, c'est pratique ancestral, parce que c'est à l'époque que les femmes accouchaient à la maison. Et maintenant, avec l'évolution scientifique, tout se fait à l'hôpital. Il y a des risques, il y a des grands risques qu'on court lorsqu'on accouche à la maison. Par exemple, on peut s'évider de son sang. Il peut y avoir des hémorragies où on ne peut pas stopper et ça peut nous entraîner loin.
Je pense que la consultation prénatale, c'est une visite que chaque femme opère au sein d'un centre de santé. Il faut savoir si l'enfant est bien positionné, que l'enfant est en bonne santé et connaître le moment où l'enfant va venir au monde. Bon, selon moi, je pense que chaque fin du mois, normalement, la femme enceinte doit se faire consulter à l'hôpital chaque fin du mois. Bon, le lien qui existe entre la consultation prénatale et l'accouchement, ça permet à la femme enceinte de se préparer. Elle ne doit pas être seule à tout moment. Et donc, elle doit se faire accompagner à tout moment pour ne pas avoir des incidents. Je pense que les consultations, c'est une bonne chose. Je conseille à chaque femme de se rendre dans un centre pour pouvoir faire les consultations, car c'est une bonne chose pour chaque femme enceinte. Bon, là où je viens, ça dépend. Parce qu'au village, on peut dire que les femmes ne sont pas instruites. Et de deux, se rendre dans un centre, il faut absolument un moyen financier. Et avant, les femmes ne partaient pas à l'hôpital. Elle accouchait à la maison, elle se faisait aider par les sages-femmes. Elle avait l'accouchement traditionnel. Dans ma communauté, ça dépend. Si, par exemple, la femme veut mettre au monde et que ça arrive, elle est à la maison, elle se fait aider par les anciennes mamans. Donc, et si elle a les moyens et qu'il y a le temps de se rendre dans un centre, elle le fait aussi sans problème. Bon, moi, je pense que les femmes qui acceptent d'accoucher à la maison, c'est pas une bonne chose. Parce que si vous mettez au monde un enfant dans un endroit qui n'est pas sain, comment vous allez détecter si un enfant est en bonne santé ou pas? Il faut toujours se rendre dans un centre pour savoir si l'enfant est en bonne santé et si l'enfant est malade, quelles dispositions on doit prendre pour pouvoir soigner cet enfant. Donc je conseille à chaque femme de connaître le moment où elle va mettre l'enfant au monde et de se rendre dans un centre de santé.
Consultation prénatale, ce sont les suivis faits aux femmes enceintes en vue de déterminer leur état de santé et celui du bébé avant la naissance. Elles devraient en faire autant que possible dès le moment où elle vient à savoir qu'elle est déjà enceinte. Et si possible pour elle, si elle a les moyens de le faire, on peut dire si elle le veut, chaque deux semaines ou un mois jusqu'à l'accouchement. Pour être sûr de la santé du bébé, on peut dire que les visites prénatales permettent de démontrer l'état de santé de la maman et en même temps l'état de santé du bébé. Parce que l'enfant peut être mal positionné et ils pourront le détecter et prévenir cela. Les maladies ou bien les malformations, tout ça, qu'on peut détecter pendant les visites prénatale. Dans ma communauté, les femmes accouchent le plus souvent à la maison par faute de moyens et souvent c'est le fait d'être ancré toujours dans la tradition. On peut dire avant, les femmes n'allaient pas à l'hôpital mais elles accouchaient normalement sans effet secondaire. Mais pourquoi pas le faire toujours? C'est là qu'elles continuent. Je suis née à l'hôpital parce que j'avais des parents qui savaient ce que signifiaient les visites prénatales et ils connaissaient les conséquences encourues des accouchements faits à la maison. Quand une femme accouche à la maison, elle peut exposer son enfant à des infections. Elle-même, elle peut entrer dans une hémorragie sans toutefois le savoir. Elle pourrait rester à la maison et cela pourrait l'entraîner à la mort ou bien à des infections aussi comme l'enfant.
Fidèles auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire qui aujourd'hui interroge l'impact que peut avoir tant l'absence que le bon suivi des consultations prénatales sur l'accouchement. Pour approfondir la question, j'accueille sans plus tarder le docteur Menant Augustin, point focal de la santé de reproduction dans la région de l'extrême nord. Bienvenue docteur.
Merci, c'est à nous de remercier Radio Océré pour son intérêt aux choses de la santé.
Alors, le suivi des consultations prénatales est déterminant pour un bon déroulement de l'accouchement. Déjà, dites-nous, c'est quoi la CPN, consultation prénatale, et quelle est son importance?
Ok, merci, c'est vraiment un problème de santé publique à l'extrême nord. En fait, pour être très simple, une femme enceinte doit avoir des visites au sein de structures sanitaires pour un suivi de la grossesse de la femme et de l'enfant. Donc, on appelle donc sa consultation prénatale, c'est la consultation avant l'accouchement.
Dans le cadre de ces consultations prénatales, puisque ce n'est pas une consultation, il s'agit bien d'une série de consultations, quel est le package pour une femme enceinte?
Oui, je te dis que les consultations prénatales, dans les formes qu'on appelle recentrées, ont quatre objectifs. Il y a la détection et traitement précoce de problèmes et de complications, c'est-à-dire on peut trouver déjà une femme qui a un problème et on est obligé de rapidement corriger. Ça vous donne un exemple, une femme qui vient en consultation prénatale, elle a un problème de l'anémie, il faut corriger ça rapidement. Il y a aussi le volet de prévention. Il y a des soins préventifs qu'on administre aux femmes enceintes. Vous connaissez très bien qu'on va revenir sur ça. Il y a la prévention contre le paludisme que tout le monde connaît, qui est très important, et d'autres préventions. Il y a aussi la préparation de l'accouchement. Parce qu'il faut préparer l'accouchement. L'accouchement, ça se prépare. Et aussi, il faut préparer pour les complications, surtout. Parce qu'il y a les gens qui ne savent pas qu'à l'occasion de l'accouchement, on peut avoir des complications. Donc, lors de la CP, on prépare pour l'accouchement normal et aussi pour les complications. Et quatrièmement, on va donc faire la promotion de la santé avec la nutrition appropriée outre. Donc, il y a vraiment des objectifs atteints dans une CPN.
Docteur, lorsqu'une femme est enceinte, combien de consultations prénatales est-ce qu'elle doit faire? Et à partir de quel moment, et aussi pendant ces consultations-là, quels sont les examens qu'elle doit faire et les médicaments qu'elle devrait prendre?
Ok, merci. Dans notre forme actuelle, c'est vrai qu'on va évoluer à d'autres formes de CPN, parce que pour nous, aujourd'hui, on a quatre CPN dans le cadre de CPN recentré. Et je pense que dans les années à venir, on va arriver à 8.
Pour
le moment, oui, pour une grossesse. Quand je parle de 4 consultations prénatales, c'est minimum. Minimum. Ça veut dire qu'une femme, en dehors de ces 4 visites bien déterminées, peut avoir besoin de venir pour autre chose. Voilà. Alors, il y a 4 consultations prénatales. Et la première consultation, c'est avant 16 semaines. C'est très important. Idéalement, c'est avant 12 semaines. Et on sait que c'est très difficile à l'extrême nord parce que les consultations prénatales commencent tardif. Vu que, comme j'ai cité avant, la CPN a un but préventif, curatif. Si vous arrivez tard, vous ne pouvez pas bénéficier de la prévention et le traitement de certaines complications ou certains dysfonctionnements qu'on peut détecter. Donc, il faut venir à la CPN avant 12 semaines. C'est vraiment un véritable défi à l'extrême nord. Première CPN. Deuxième consultation, c'est entre 24 et 28 semaines. Troisième, c'est autour de 32 semaines. Quatrième, autour de 36 semaines. Voilà donc les 4 consultations. Et chaque visite a ses objectifs qu'il faut atteindre. Voilà, donc ce n'est pas... C'est bien décrit. Première consultation, deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, quand vous arrivez, première consultation à 36 semaines, c'est très difficile parce que on a déjà laissé beaucoup de choses qu'on pouvait faire avant en matière de prévention, en matière de prise en charge.
Docteur, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple concret de pathologie tant pour la mère ou pour le bébé qu'on aurait pu éviter si la femme avait commencé ses consultations à 12 semaines, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure?
Je veux revenir sur les éléments de consultation. Vous dites que si vous avez, par exemple, je vous parle de traitement préventif du paludisme, aujourd'hui, quand on va commencer, utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, la vaccination anti-tétanique, la supplémentation de fer anti-folique et autres. Tous ces éléments, si débutés tôt, ont une grande bénéfices pour la mère et pour l'enfant.
Dans notre région, vous l'avez peut-être tout à l'heure mentionné, on constate encore une faible adhésion de la population ou des femmes en particulier justement à ces consultations prénatales. Actuellement, quel est le taux d'adhésion des femmes enceintes à la CPN dans la région de l'extrême nord?
La première CPN, en 2022, sur les nombres de femmes attendues, on est arrivé à 67%. Et il y a une amélioration parce que si vous regardez, en 2015, on était à 44%. Il y a un progrès, mais ce progrès est trop faible. Une femme enceinte doit absolument assister à la CPN. Et d'abord, comme je disais là, quand on va étiqueter première CPN, on sait quand est-ce qu'on doit faire la première CPN. Parfois, ces CPN sont des CPN, je peux dire, une sorte de rituel, parce que si vous arrivez à 36 semaines pour la première CPN, ça c'est une CPN. On va faire des choses, mais on aimerait rencontrer cette femme gestante avant. Alors, pour la CPN 4, ça chute. Ça veut dire qu'on est à 53%. Comme j'ai expliqué, il y a deux raisons. Il y a les femmes qui arrivent, ils font la première CPN, après c'est l'accouchement qui arrive. Ou bien, dans beaucoup de cas, des femmes qui vont faire la CPN avant, autour de 16 semaines, première CPN, c'est fini. Elle va seulement apparaître lors d'accouchement. Ceci explique cet écart qu'on quitte de 67% à 53%.
Vous l'avez déjà bien expliqué, mais peut-être il faut également, pour que les femmes qui sont à l'écoute comprennent très bien les risques auxquels elles s'exposent, quel est l'impact du non-suivi des consultations prénatales sur l'accouchement?
Ok, j'ai expliqué, hein, ça fait partie de l'axe, il faut dire clairement que faut qu'on regarde quelque chose un peu, le cadre est plus large, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Il y a les axes des activités menées pour combattre, pour diminuer le nombre de femmes et les enfants qui décèdent. Et parmi ces axes, il y a la CPN recentrée. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Ça a un impact énorme sur la réduction. Donc il y a d'autres éléments, il y a d'autres axes. Mais la CPN recentrée est assez si de particulier, comme je vous ai expliqué. On a des choses qu'on fait, on va dépister les anomalies, on va soigner les anomalies, on va faire la prévention, on va faire la promotion de la santé. Donc il y a des objectifs atteints, il y a des choses qui sont bien pour la maman. Et surtout, comme j'ai expliqué, on va préparer l'accouchement et aussi les complications. Vous savez que souvent c'est dans les circonstances de complications qu'on a des décès des femmes enceintes et les enfants. Je voulais juste signaler que dans lors de CPN, on peut trouver certains problèmes. On peut les complètement corriger. On peut prévenir. Mais surtout, on a le temps d'agir. On n'arrive pas, on ne doit pas être surpris par une complication qui pouvait être détectée lors de la CPN. C'est pour ça que la CPN est très importante. Je vous donne un exemple très simple pour être plus concret. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent dans une salle d'accouchement et ils sont surpris qu'ils ont triplé. Voilà. Ou bien, il y a un accouchement à domicile et puis après deux jours, on se rend compte qu'il y avait un enfant qui n'est pas sorti. Puis on ramène donc cette femme avec un enfant vivant et l'autre qui est resté malheureusement perdu. Donc, ça veut dire que voilà les choses aussi simples comme ça. Vous savez que l'anémie, le taux d'anémie est très élevé dans notre région. Et ça commence même dans l'adolescence. Alors, si vous trouvez une femme qui a l'anémie, vous avez le temps de corriger cette anémie. En 3 mois, vous pouvez déjà corriger l'anémie. Et parfois, l'anémie est si sévère qu'il faut passer à des transfusions. Donc, ces problèmes peuvent être corrigés. Et maintenant, c'est quand même inacceptable qu'une femme qui doit accoucher, qui est enceinte, et puis subitement, elle se met à convulser. On se rend compte que la femme-ci avait un problème hypertensif de la grossesse. Or, si elle suivait la CPN, on devait commencer à dire que cette femme a déjà ces éléments, et il y a le temps de référer et tout. Et beaucoup de choses qu'on peut avoir en faisant la CPN, surtout la référence, parce que la CPN parfois détecte les complications que le plateau local où la femme vient faire la CPN ne peuvent pas gérer. Et c'est des cas qu'on est obligé de référer. Et c'est ça même l'importance de la CPN. Voilà.
Dans les statistiques régionales ou nationales, en ce qui concerne la mortalité maternelle, est-ce qu'on peut dégager le pourcentage de femmes enceintes décédées dont la cause de leur décès pourrait être le non-suivi justement de ces CPN-là?
Bon, je voulais juste dire que les décès, on ne peut pas imputer directement la non-suivi de CPN. Souvent, le décès d'une femme enceinte est vraiment la somme de beaucoup de choses. Et si on peut être très superficiel, on va penser seulement que c'est la CPN. Il y a la CPN, autre chose qui sont unies. Si vous regardez, d'après la dernière enquête démographique de santé auprès de la population, 2018, on est, le Cameroun a 400 taux de mortalité maternelle, 406 femmes décède à cause de la grossesse, c'est pas uniquement lors de l'accouchement, à cause de la grossesse, c'est ça qu'on appelle mortalité maternelle, décès lié à la grossesse. Pour 100 000 naissances vivantes, si vous regardez le nombre de femmes attendues à l'extrême nord, femmes enceintes attendues à l'extrême nord pour 2022, on est autour de 240 000. Si vous appliquez ces formules, vous allez voir qu'il y a, en général, on a plus de 1000 décès à l'extrême nord chaque année de femmes liées à la grossesse. Mais sinon, vous avez quelques cas qui sont signalés parce que ces décès se passent en général dans les communautés et on signale peu et peu. Il y a beaucoup de, il y a des situations où vous ne pouvez, les gens ne font pas le lien. Par exemple, une femme qui va perdre une grossesse saignée jusqu'à la mort, parfois ils ne font pas ce lien, ou bien une femme qui décède à cause d'une grossesse extra-utérine, les gens ne pensent pas que c'était lié à la grossesse. Mais sinon, en 2022, on a signalé 149 femmes décédées lors de formations sanitaires, dans les formations sanitaires. C'est-à-dire que ces femmes qui sont arrivées dans les formations sanitaires, malheureusement, on les a perdues. Les femmes décédées liées à la grossesse au niveau communautaire, on était à 246. Donc vous voyez que si on va chercher les statistiques de la morgue, les statistiques de Binec, on essaie de trianguler, vous allez voir que c'est plus élevé puisque les personnels médicaux eux-mêmes, ils signalent peu. Quand on arrive dans cette information sanitaire, c'est dans le registre de la morgue qu'on établit qu'il y a beaucoup de décès de femmes liées à la grossesse. Or, les rapportages sont très réduits. Ils parlent seulement de femmes qui sont décédées lors de l'accouchement. Voilà.
Docteur, pour tout accouchement, vous avez tout à l'heure mentionné justement ces décès dans les communautés. Là, on parle bien des femmes qui accouchent à domicile ou qui parfois ne suivent même aucune visite prénatale et qui finissent par accoucher à domicile. Alors, en principe, pour tout accouchement, il est recommandé qu'une femme soit assistée. C'est quoi un accouchement assisté et quelles sont les normes requises en la matière?
Accouchement assisté, c'est l'accouchement dans une formation sanitaire où la femme est suivie par un personnel qualifié et avec l'utilisation de partogramme. Si ces conditions sont réunies, on va dire que cet accouchement était assisté. Si on a un accouchement par un personnel non qualifié, on a un accouchement qui n'est pas suivi avec partogramme, avec l'utilisation du partogramme, cet instrument qui est très important pour le suivi de le travail et l'accouchement, et même l'après-accouchement, on va dire que cet accouchement n'était pas assisté. Mais en dehors de ça, vous avez les accouchements à domicile. À domicile, qui est vraiment à peu près la majorité. Et il y a une autre forme que je voulais insister, les accouchements que les femmes vont venir dans les formations sanitaires parce qu'ils ont tenté d'accoucher à la maison, ça n'a pas réussi. Ils ont tellement dubié la chance de la femme pour survivre. Et quand on amène dans une formation sanitaire, c'est vraiment un cas d'espérer. C'est ça que je voulais juste signaler, ce problème des accouchements. Quand on m'a dit qu'elle est morte dans une formation sanitaire, Alors qu'elle est venue faire 2 heures dans une formation sanitaire, elle a fait 3 jours au village, que tout le monde a déjà tout essayé pour qu'elle accouche, elle n'a pas accouché. On amène dans cette femme pour venir, que c'est ça que je voulais juste signaler.
Docteur, quel est le pourcentage des femmes qui ont accès à un accouchement assisté ici à l'extrême nord?
Ok, l'accouchement assisté à l'extrême nord, aussi les chiffres ne sont pas encourageants, même si on évolue. En 2022, sur le nombre de femmes attendues, les femmes enceintes attendues, on a eu 37% de femmes qui sont arrivées assister, faire un accouchement dans une formation sanitaire. Et dans ce nombre de femmes, je voulais insister sur une catégorie qui est particulière, qui est vraiment les choses qu'on ne souhaite pas. C'est-à-dire ces femmes qui arrivent pour mourir dans les formations sanitaires, qui ont déjà passé 2-3 jours de travail difficile à domicile, où on a déjà tenté toutes les techniques traditionnelles. Et cette femme arrive avec tous les paramètres dégradés. Et le personnel médical, ils prennent 1 heure, 2 heures pour faire ce qu'ils peuvent faire, mais malheureusement, ils perdent cette femme. Ou bien ils vont accoucher cette femme, et puis on ne va pas avoir la femme, l'enfant ne va pas survivre, ou bien la femme va survivre avec des séquelles. La femme même peut avoir des complications. Vous connaissez ce qu'on appelle fistule obstétricale. C'est vraiment lié à ce travail qui sont dystociques. Qu'on force que la femme doit accoucher alors qu'elle ne peut pas accoucher normalement. À la fin, elle peut développer des complications, même si à la fin, on va accoucher cette femme.
Alors, 37%, c'est quand même assez bas, ce qui voudrait laisser sous-entendre qu'il y a environ 63% de femmes qui n'accouchent pas encore dans les formations sanitaires. Quels sont les facteurs qui pourraient justifier que beaucoup de femmes choisissent encore ici dans notre région d'accoucher en dehors des formations sanitaires ou bien à la maison?
Ok, il y a un grid d'analyse de ce problème que le personnel médical utilise beaucoup. Il parle en termes de retard. Premier retard, deuxième retard et troisième retard. Premier retard, c'est le retard de prendre une décision d'aller obtenir les soins. C'est-à-dire d'arriver, faire accoucher à l'hôpital. Vous pouvez imaginer les causes. Parfois, c'est lié à la décision. C'est-à-dire que, est-ce que la femme même peut décider elle-même d'arriver dans une structure sanitaire. C'est aussi lié à un manque de formation. Est-ce que la femme là sait que ce qui m'arrive maintenant, j'ai besoin d'arriver, de me rendre rapidement dans une formation sanitaire? Donc vous avez ces causes qui entraînent un retard de prendre la décision d'aller dans une formation sanitaire que vous connaissez très bien. Bon, une fois la décision prise, est-ce que la femme, effectivement, va arriver dans la formation sanitaire. C'est là où on parle de deuxième retard. Et ce deuxième retard, souvent, c'est lié à la logistique. Est-ce que la formation sanitaire est loin? Est-ce qu'elle a les moyens pour arriver? C'est-à-dire les moyens financiers, les moyens logistiques. Est-ce qu'il y a une moto? Est-ce qu'il y a un véhicule? Donc, ça entraîne cette deuxième retard. Il faut attendre. Ou bien la structure sanitaire, est-ce qu'elle est ouverte même la nuit? Il faut attendre. Même si elle a pris la décision, elle va attendre. Et puis, une fois arrivé dans la formation sanitaire, malheureusement, on va trouver cette troisième retard qui a ses racines dans l'insuffisance de structures sanitaires. Par exemple, est-ce que le personnel médical pose bien le diagnostic? Est-ce que les soins sont bien administrés? Il y a aussi une contribution de la parturiente ou la femme qui vient pour accoucher et ses accompagnateurs. Est-ce qu'ils acceptent les soins? Est-ce qu'ils payent les soins? Par exemple, une femme qui arrive, on dit qu'on doit faire la césarienne. Est-ce qu'elle accepte la césarienne? Une femme qui doit être transfusée, est-ce qu'elle accepte la transfusion? Donc, ce retard, voilà donc classiquement, c'est qu'on va... Cette grille d'analyse qui est plus simple et très, très convenient, ça nous permet d'avoir les éléments à chaque étape et puis on va trouver les solutions. Mais je voulais juste dire que c'est beaucoup plus compliqué le problème. Il y a des éléments socioculturels, il y a des éléments religieux, il y a des éléments liés à l'éducation de la femme et de la fille. Il y a aussi la perception de soins. Est-ce que le soin, c'est vraiment la première chose dans la vie? Il y a d'autres choses qui sont plus importantes que le soin. Donc, il y a tous ces éléments qui sont autour de ça. Et que le personnel médical, c'est notre travail de chercher à faire venir ces femmes dans les structures sanitaires pour bénéficier de soins appropriés.
Vous savez que j'aurais peut-être souhaité, docteur, que vous mettiez un peu le doigt sur le problème ou alors sur le facteur socio-culturel, avec un exemple, si possible, à l'appui par rapport à votre propre expérience en tant que médecin. C'est vrai, on entend beaucoup de choses dans notre contexte ici, des raisons culturelles qui sont avancées dans certaines communautés pour lesquelles les femmes ne vont pas accoucher justement à l'hôpital. Vous, en tant que médecin, dans votre expérience, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer certaines personnes qui vous avancent des raisons socio-culturelles pour lesquelles elles décident d'accoucher à domicile?
Alors, je vais commencer par des raisons, je peux dire sociales, je ne sais pas comment dire. Je donne un exemple, par exemple. Il y a beaucoup, dans certaines communautés, où malheureusement, le personnel médical sont les hommes. Et pour faire accoucher, d'abord, ça commence même avec la CPN. Et à la fin, c'est l'accouchement qui est effectué par le personnel médical masculin. Et les gens sont très appréhensifs. Ils ne veulent pas que les épouses se fassent consulter par ces hommes. Et parfois, quand on va faire beaucoup d'efforts, on change ces personnels. Il y a des femmes. D'abord, c'est difficile de trouver les femmes d'abord qui sont le personnel médical, ça, soit. Mais on va trouver quelqu'un. Quand on change, on voit clairement l'amélioration. Dans une formation sanitaire, j'ai vu une nette amélioration. Ça veut dire que pour cette communauté, c'était leur problème. Parce que les problèmes de CPN, il ne faut pas mettre ça dans un seul panier. Chaque communauté a ses problèmes spécifiques. Donc, on a tendance à généraliser et chercher les solutions qui vont résoudre tout. Il y a des communautés où il y a les femmes qui sont de sages-femmes qui font de CPN accouchement, mais les gens n'arrivent pas là-bas. Donc, voilà donc une raison, je peux dire sociale, qui est très claire. Alors, il y a aussi un problème culturel que je peux insister, c'est aller dans une structure sanitaire accoucher, ça témoigne que cette femme est perçue comme quelqu'un de faible. Normalement, il faut accoucher à domicile, entouré par ses siens, pour montrer que vous êtes une femme qui peut supporter la douleur, qui peut maîtriser une situation. Et puis, il y a un autre aspect aussi, les matrones et les gens qui accouchent à domicile, c'est une sorte de honneur. Il y a cet honneur d'accoucher dans l'intimité de la famille. C'est vraiment quelque chose, voilà. C'est perçu comme ça que c'est mieux. Il faut aller à l'hôpital pour le cas désespéré. L'accouchement, c'est quelque chose, un problème qu'ils peuvent parfaitement gérer à leur niveau. Donc, ils n'ont pas besoin de prendre leurs problèmes personnels, entre guillemets, pour aller exposer au public, entre guillemets, les formations sanitaires. Sauf que je dois insister que l'accouchement, ce n'est pas quelque chose aussi simple. On peut avoir des complications. Et souvent, on a des complications et on perd la vie. C'est pour ça qu'on préfère que toutes ces femmes, nous, on était formés comme personnel médical pour faire ce travail. Qu'on nous laisse faire ce travail. Et s'il y a des complications, on est en mesure de mieux gérer les complications. Parce que le fait que la plupart des accouchements, comme vous savez, n'ont pas de problème. 80%, jusqu'à 80% des accouchements peuvent se passer sans problème. Mais dans les 20%, on peut commencer à avoir des complications et il faut agir vite. Donc, on insiste malgré tout ce poids, cet héritage culturel, social et tout. Il faut laisser le personnel médical faire l'accouchement.
Alors, vous venez de le dire, docteur, 20% des accouchements se passent généralement de façon pas simple. Il y a parfois des complications qui surviennent. Et vous l'avez dit plus haut également dans le cadre de cette émission, que beaucoup de femmes commencent généralement le travail à la maison et c'est lorsqu'il y a des complications qu'elles courent dans des structures sanitaires justement pour bénéficier d'une assistance pour leur accouchement. Comment est-ce que de pareils cas sont gérés dans les formations sanitaires et est-ce que cela n'augmente-t-il pas finalement les risques de mortalité soit de la mère, soit du bébé?
Oui, les complications augmentent évidemment le risque de décès de la mère et de la nouveau-née aussi. Le risque d'avoir des séquelles. Parce que si c'est sur les séquelles, si vous avez un accouchement à la maison, par exemple, je donne un exemple, et l'enfant est asphyxié, l'enfant a des problèmes respiratoires, Est-ce que vous avez le matériel approprié pour réanimer l'enfant? Faux, vous n'avez pas. Donc vous allez vous faire l'accouchement, vous allez l'enfant qui a des séquelles neurologiques lourdes et il va vivre avec ça pour toute sa vie. Peut-être c'est un enfant qui pouvait être, je ne sais pas quelle star, quelle personnalité phare de notre société. On a abîmé sa vie à cause d'un accouchement à domicile. Donc les complications ne sont pas seulement le décès. On peut avoir d'autres complications qui sont bien connues. Bon, je disais que vous avez parlé de complications. Effectivement, quand vous amenez une femme dans une structure sanitaire, depuis 4 jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on insiste qu'elle doit accoucher. Alors qu'il y a ce qu'on appelle dystocie, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre l'enfant et le passage. C'est-à-dire le passage ne peut pas accommoder le passager. Je peux expliquer comme ça. Ça veut dire quoi? Cet enfant ne peut pas passer par là. Vous ne pouvez pas pousser un éléphant à travers la porte de votre chambre, même si vous avez beaucoup de volonté. Donc souvent, on va amener un enfant qui est déjà malheureusement décédé avec la dame qui a beaucoup de problèmes. Et je vous ai signalé des cas où on va faire des accouchements, un accouchement jumelé à la maison. Ils ne savent même pas que c'était jumelé. C'est après deux jours qu'on se rend compte que le ventre de cette femme est encore costaud comme ça. Qu'il y a quoi? On doit emmener cette femme dans le structure sanitaire. Et puis on va voir. Vous avez les complications des infections. Dans notre milieu, on est très très regardant sur la prévention des infections. Quand on prend tout dispositif pour ne pas infecter la femme, pour ne pas infecter le nouveau-né. Donc quand on fait les accouchements à domicile, les complications d'infection peuvent suivre. Vous avez les enfants qui peuvent donc rester dans les services de néonatologie pour de maladies infectieuses. Voilà. Donc, moi, je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en matière de prévention. On n'est pas entré dans les détails, mais vous savez qu'il y a prévention de transmission mère-enfant de VIH. Sa porte d'entrée principale, c'est la CPN et la salle d'accouchement. Alors, quand vous faites l'accouchement à domicile, est-ce qu'il y a moyen de prévenir? Alors qu'on a des moyens de nos jours, lors de la CPN à l'accouchement, pour que cet enfant, même si sa maman est séropositive, que cet enfant ne contacte pas la maladie. Donc, voyez, il y a donc tous ces éléments qui entrent en jeu, qui font que les complications sont fâcheuses. Je voulais juste terminer avec ce qui est appelé les maladies hypertensives de grossesse, comme c'est la troisième tueur des femmes. Vous avez cette femme qu'on est en train d'accoucher à domicile, qui n'est jamais venue pour la CPN, que les chiffres tensionnaires grimpent, qui se met à convulser à domicile, et puis là, on court pour venir. Cette complication est prévisible. On pouvait savoir, si la CPN était bien menée, on pouvait savoir que cette femme, c'est un cas qu'on doit référer. C'est un cas de maladie hypertensive de la grossesse qui a besoin d'un suivi particulier et très rapproché. Donc, quand vous amenez cette femme qui convulse déjà, vous savez, chaque fois que vous convulsez, vous détruisez de milliers, des centaines de milliers de neurones dans le cerveau. Donc, même si à la fin, on va régler le problème, est-ce que cette femme a la même capacité mentale après ses convulsions qu'elle a eues? Donc, il faut donc gérer les complications avant le temps. Pas que l'hôpital sert comme là on court pour venir déposer les femmes qui sont des cas désespérés.
Un autre problème que l'on rencontre dans les maternités ici à l'extrême nord, c'est le problème du refus de transfusion sanguine par certaines femmes qui ont parfois des complications lors de l'accouchement. Quels sont les différents facteurs sur lesquels repose ce problème, ce phénomène?
Vous savez que si on va regarder de façon schématique pourquoi les femmes meurent, il y a le problème de saignement que vous évoquez. Il y a un problème de maladie hypertensive, il y a aussi un problème d'infection et puis aussi un problème de dystocie ou bien les accouchements difficiles. Voilà les quatre éléments. La transfusion sanguine, le problème de sang est très important. Je vous ai signalé que dans notre région, on a un problème parce que l'anémie commence tôt. Même chez les adolescentes, vous avez vu qu'on essaye même de faire la supplémentation en fer acide folique parmi les adolescentes. Parce que on veut essayer de juguler. Peut-être elle va arriver à l'âge de reproduction déjà avec sans avoir l'anémie. Puisque quand elle aborde cette phase de sa vie avec l'anémie, elle va tomber enceinte, l'anémie va s'approfondir, elle ne vient pas pour la CPN. Et puis on va avoir cette situation où on doit transfuser. Elle fait un peu, ça devient plus grave. Alors, on a un problème de transfusion qui est compliqué. D'abord, la transfusion, c'est un acte médical très spécifique. Il faut un plateau technique, il faut des ressources humaines appropriées, c'est-à-dire vous avez votre banque de sang, vous avez votre laboratoire et vous avez le personnel qualifié. Ça, c'est du côté de l'offre. Mais il y a un élément qui est très important, c'est le sang. Malheureusement, on n'a pas le sang. Il faut que le sang vienne de la communauté. Et on a une difficulté parce que les gens ne veulent pas donner le sang. On a observé des cas difficiles où un monsieur va refuser de donner le sang à son épouse jusqu'à son épouse décède. Il vous dit qu'il ne donne pas le sang. Quoi? Dans ce principe, il ne donne pas le sang à quelqu'un. Et c'est clair. En dehors du refus de sang, on a aussi l'absence de plateau technique approprié. Vous savez, comme je vous ai expliqué, il faut un médecin pour la présence d'un médecin. Ce n'est pas toutes les structures qu'on peut les laisser donner le sang à quelqu'un. Il y a aussi le refus d'accepter qu'on vous donne le sang. Ça existe. Il y a des malades qui refusent qu'on leur donne le sang.
Ils choisissent la mort?
Bon, je ne peux pas dire qu'ils choisissent la mort, mais quand on doit vous donner le sang, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres options. Si vous refusez de prendre le sang, il y a de fortes chances que vous allez perdre votre vie. Donc, il y a donc ces deux éléments où les gens refusent de donner le sang et il y a une minorité où on refuse de prendre le sang, même si le sang est disponible. Et il y a aussi beaucoup de situations où on a besoin, une femme a besoin de sang, elle a saigné, elle a besoin de sang. Mais le plateau technique n'est pas approprié, il faut rapidement évacuer cette femme-là où elle va aller, et puis on va chercher les donneurs. Parfois c'est loin de sa domicile, de sa base, c'est difficile de trouver des donneurs aussi. Voilà. Donc c'est un problème très compliqué en matière de sang à l'extérieur. Non. Malheureusement, quand on va faire la revue de décès maternel, on trouve quand même pas mal de femmes qui décèdent parce que on n'a pas eu le sang pour donner à ces femmes. Quand une femme enceinte ou une femme qui vient d'accoucher, elle fait ce qu'ils appellent hémorragie, soit de intrapartum, prépartum, postpartum, ça veut dire qu'elle saigne, elle saigne. Ce n'est pas un petit saignement, c'est massif. Il faut le sang et il faut vite. Donc quand on commence à TGVC et tout, souvent on perd ses femmes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et souvent elle a besoin de plusieurs poches. Hein, ce n'est pas une poche, il faut... c'est pas 3-4 poches pour sauver certains cas. Et vous savez que il faut tester beaucoup de potentiel donneur avant de trouver et le sang qui est de même compatible avec cette femme et deuxièmement le sang qui n'a pas de maladie. Voilà.
Alors tout de même quand même docteur, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire à ce niveau. Comment réussir, comment parvenir à juguler toutes ces pesanteurs autour de la transfusion sanguine des femmes enceintes en particulier? Est-ce qu'il y aurait des dispositions qu'une femme enceinte devrait prendre en amont de son accouchement pour se prémunir de cette éventualité-là?
Vous êtes en train de répondre clairement, on vous a dit en amont, et depuis qu'on est là, on décrit que ces femmes ne font rien en amont. En amont, ça veut dire qu'il faut la CPN. À la CPN, on peut prévenir. Si on sait que vous avez un problème d'anémie, on commence à corriger. Si on sait que vous avez risque de saigner, parce que nous, on peut savoir, il faut absolument vous ramener dans une structure où on peut donner le sang. Et il faut préparer, comme je vous ai dit, la CPN, on prépare pour l'accouchement et les complications. Ça veut dire que si la femme a besoin de sang, et c'est une des choses qu'on insiste dans le document de préparation, qui va vous donner le sang si on a besoin de sang? Qui va donner l'ordre s'il y a complications? Parce que quand il y a complications, souvent, on voit seulement la femme, il n'y a personne autour qui parle avec pertinence. Qui est le monsieur ou la femme qui doit décider? Si vous êtes dans une phase de complication, parfois, vous n'avez pas la capacité de décider. Donc, toutes ces choses se préparent avant, lors de la CPN. Deuxième aspect que je voulais insister, c'est que les gens ont cette habitude de donner le sang. Parce que même les banques, peu de banques de sang qui sont à l'ESM sont vides. On ne possède pas de campagne, mais le sang qu'on collecte, c'est très infime par rapport aux besoins. il faut que les gens ont tendance, cette habitude d'aller donner naissance de façon volontaire. Ça, c'est très important. Troisième chose, il faut beaucoup l'éducation de la population. Il faut vraiment une éducation de la population. Je vous ai dit qu'il y a les gens qui refusent de donner le sang. Il y a ceux qui refusent de prendre le sang. Mais j'ai vu une situation où quelqu'un refuse qu'on donne le sang à sa proche. Lui ne donne pas le sang, mais il refuse que les volontaires, même ceux qui sont volontaires, qui veulent donner le sang à sa proche, ils refusent. Donc il y a une éducation pour expliquer que le sang, c'est un élément important qu'on va donner, c'est parce que si on ne donne pas le sang, on risque de perdre la vie. Il n'y a pas quelque chose qui remplace le sang.
Docteur, restons toujours sur cette éventualité. Pour une femme qui aurait besoin de sang, à qui on a déjà détecté qu'il pourrait avoir une anomalie, elle doit préparer comme elle le donneur.
Bon, je ne sais pas si on peut avoir de nombre exact, mais quand on dit préparer le donneur, ça veut dire quoi? Il faut chercher les gens qui sont compatibles avec vous. Si vous trouvez un, deux, trois, c'est déjà bon. Il faut les gens qui sont compatibles avec votre groupe sanguin. Il faut les gens qui sont disponibles. Quand on va les appeler à 10 heures pour venir donner le sang, il faut les gens qui ont un style de vie respectable et réprochable sur le plan médical, en public et en privé aussi. Donc, ces personnes savent, ils sont déjà préparés, ils savent qu'ils doivent donner le sang. Et le moment venu, on les appelle, ils arrivent rapidement pour donner le sang. On gagne beaucoup en temps.
Merci pour cette précision qui me semble très importante. Alors docteur, pensez-vous que l'une des solutions justement pour le suivi, alors pour le respect par les femmes enceintes des CPN, pourrait consister à implémenter des unités mobiles de CPN comme c'est le cas dans certains pays?
C'est comme c'est le cas au Cameroun et à l'ESM, non hein? Ça s'appelle la CPN en stratégie avancée. On a pensé à ça, c'est pour essayer d'aller vers ces femmes qui n'arrivent pas à décider. Les voir et c'est ces femmes qui n'ont pas le moyen de venir jusqu'à la structure sanitaire. On a pensé à cette stratégie et c'est mené et ça permet quand même d'enrôler beaucoup de femmes dans les cohortes de CPN et ça marche très bien. Mais je voulais juste insister que la CPN avancée c'est bien, c'est mieux que rien, mais il faut compléter avec les CPN au moins au niveau de la structure sanitaire parce qu'on ne peut pas tout déplacer en avancée. La CPN a avancé à ses limites et c'est important qu'à la fin, ne serait-ce que pour certains cas particuliers, il faut absolument qu'on les suive dans les structures sanitaires. Mais sinon, la CPN recensée a le même principe pour tous les parturants, toutes les femmes enceintes. Donc, si on parle à stratégie avancée, c'est juste des moyens de les encourager à adhérer à cette CPN qui doit se passer normalement dans la structure sanitaire. Donc ça se passe à l'ESM et ça nous permet de rattraper pas mal de femmes enceintes qui sont dans les formations, dans les villages et qui ne viennent pas pour les CPN.
Et dans ces cas-là, une fois qu'une femme par exemple a bénéficié des contraceptions prénatales en stratégie avancée, pour l'accouchement ça se passe comment?
Accouchement, on ne peut pas faire... Bon, vous voulez donc dire qu'il faut faire les accouchements en stratégie avancée? Vous savez que les accouchements, on ne peut pas prévoir. On a une idée qu'elle va accoucher à telle période, mais on ne peut pas prévoir exactement. Les accouchements doivent se passer dans les formations sanitaires. Et je peux dire au Cameroun, au moins au niveau de CSI, pour que ça devienne un accouchement assisté. Au moins au niveau de CSI, ou à centre de santé intégré. Il faut commencer par là. Et pour le cas avec complications, on va référer dans les structures qui ont plus de paquets, plateaux techniques pour les évoluer. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on fait la CPN en stratégie avancée, les femmes peuvent aussi faire les accouchements en stratégie avancée. Non, les accouchements. Il y a comme je vous ai expliqué quand on discutait, il y a de difficultés qui sont imminentes. La prévention des infections est difficile en stratégie avancée. Les examens médicaux, les examens paramédicaux, c'est difficile. Donc, quand on fait la stratégie avancée, dites-vous qu'il y a une partie de la CPN que vous pouvez bénéficier. Il faut venir dans la formation sanitaire pour qu'on complète ce package.
Pour sortir définitivement de cette émission, quels sont les conseils que vous pourrez donner aux femmes pour les encourager, pour les inciter justement au respect du calendrier des consultations prénatales?
Bon, j'ai bien expliqué qu'une femme enceinte doit venir dans la formation sanitaire avant 16 semaines. Première consultation. 16 semaines. 12 semaines même, c'est mieux. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. Je peux vous dire que donner l'acide folique dans le rôle de prévention de malformation, particulier chez un enfant, doivent se prendre avant ou plus tard 12 semaines. C'est là où ça devient efficace. Après 12 semaines, ça entre dans la fabrication de sang. Mais cet bénéfice qu'on cherchait avant 12 semaines de l'acide folique, en cas de déficit de l'acide folique chez la femme, est perdu si la femme va arriver tard. Il faut donc venir pour la CPN avant 12 semaines. Il faut accepter le package qui est lié à la CPN, c'est-à-dire le package des examens, le package de soins, le package de prévention, le package de préparation pour l'accouchement et les complications, le package de promotion de la santé. Il ne suffit pas de venir faire une CPN rituelle, c'est-à-dire qu'arriver dans un structure, tu dis qu'il faut aller faire une CPN. C'est comme si le CPN doit avoir un impact. Il faut accepter, il faut que ces femmes acceptent aussi de bénéficier de tous ces packages, quatre packages que je vous ai cités, pour que ce CPN a de valeur. Et surtout, on souhaite que toute femme qui vient faire la CPN accouche dans la formation sanitaire. Vous avez vu que quand on voit le nombre de femmes qui viennent pour la CPN et le nombre qui accouchent dans une formation sanitaire, il y a une fossé énorme. Donc on a pas mal de femmes qui viennent faire la CPN jusqu'à la fin, mais elles accouchent dans les, hors de structures sanitaires. Voilà donc ce que je peux dire. Et puis, après l'accouchement, ce n'est pas fini. Il y a la consultation postnatale. En fait, ce qu'on appelle suivi de couple, mais enfin, après l'accouchement, il y a tout un calendrier à faire pour s'assurer que l'enfant est en sécurité, la maman est en sécurité. Dites-vous que jusqu'à 42 jours après l'accouchement, la femme et l'enfant ne sont pas sortis de danger. Donc, il faut les suivre jusqu'à 42 jours minimum.
Docteur Menant Augustin, merci d'avoir accepté une fois de plus de répondre aux questions de santé pour tous sur Radio Serré.
C'est la région de l'Estem Nord, surtout la santé de production, le groupe technique de santé de production qui vous remercie pour cet intérêt que vous accordez à la santé maternelle, néonatale et infantile. Et on est toujours disponible pour apporter notre petit soutien, notre petit conseil. Que la population soit mieux édifiée en matière de santé.
Avant de conclure cette émission, mesdames, messieurs, je vous invite à écouter un petit résumé en langue foufouldée du contenu de cet entretien avec notre invité. C'est une traduction que nous propose Badriatou Bello Bouba.
Heliti to betilimbe on don kelito Syria wa modon don jamu mon dum emission nasiana go enden bo waza go don jamu mon ha radio hosere Syria mon hande don wolwana nafu da ya go l'hôpital ha redu en e soinde ya go redu bariki ha sai daigo ngam bolwen do halaka en yona ke docteur Menan Augustin Maudo do njamu daili jimeden hander jia sebito woyla. Da kan num manda go der Syria wamin. Rew bebe marai ayinu ki CNP bodki don mara billa do mabbe e do bikon mabbe ngon kon der redu. Debo redu jo fu, mo redu mun wadi asaweje sa poe didi se yaha bariki heba fu dako bembiata visit prenatal. E habda yakto ko docteur en mantammi wigo mo fu suivi prenatal dum hunde yottinde masin ha jahorgal redu e wakkati daigo to on jaktaaki yago de nay visite din daga fuddam redu debbo maran sadirmaaji e nyawti dibe tammaaki hurgugo hidde ko goddo danya daigo ha sare wodai debbo kam sei habda mara wallinde docteur wala goddo jangudo ko larani dum Sa'i daigo kam gam foti to wodi ko billi sa'i daigo man bo o maran dabareji no o yidorto dada be bingel fu rufgo iyam ha debbo sa'i daigo don bara rewbe jur to gam man CNP don watani dum hakkilo heba to wodi billa bo be don taski gam taskaranga be chuklano bana taskin go iyam to fotaka haje wadi sa ito rewbe man don gada visit dimun be yaman dum o taskina hokkobe mo iam heba hisa sadirmaaji chakludi sa idaygo to iam yamama heban dartnen hore men en dartnen bikkon men hunde den de wadata kono bila CNP heditittobe tilimbe to wodi ko on gidi besdan gomin do halaka on poti on gerbana min message ko ma vocal hala bikaral lagal jego jenai joyi gotel nai jego tati jego didi jego jenai joyi gotel nai jego tati jego didi tange jite heditittobe on poti on nana e on nanto min ha internet ha address www.radiohosere.com heditittobe hidde ko min kebana on siriya wangotka tange jite faddago buran nyawdago sey yeso.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette autre édition de Santé pour tous qui s'est arrêtée aujourd'hui sur l'impact que peut avoir tant l'absence que le bon suivi des consultations prénatales sur l'accouchement. Nous remercions une fois de plus le docteur Menon Augustin, chef de district de santé de Maroua 1er et point focal régional de la santé de reproduction, pour nous avoir prêté son expertise pour cette émission de sensibilisation. Mesdames, Messieurs, nous l'avons suivi. Sans un bon suivi des CPN, la femme enceinte expose sa vie et celle de son bébé. Toute femme enceinte doit, dès la 12e semaine de sa grossesse, se rendre dans une formation sanitaire pour commencer les consultations prénatales et surtout veiller à respecter toutes les prescriptions qui lui seront faites lors de ces consultations. Ce suivi prénatal est capital pour assurer à la femme le bon déroulement de sa grossesse et de son accouchement. Si vous ne respectez pas les 4 visites prénatales auxquelles vous avez droit dès le début de votre grossesse, il est possible qu'il y ait des complications ou maladies que l'on ne pourrait plus résoudre ou éviter avant l'accouchement. Accoucher à la maison est dangereux. La femme doit toujours veiller à bénéficier d'un accouchement assisté dans une formation sanitaire, car en cas de complications, elle pourrait avoir une prise en charge adéquate pour sauvegarder sa vie et celle de son bébé. La perte de sang liée à l'accouchement est une cause importante de décès maternel. L'un des bénéfices non négligeables du bon suivi des CPN, c'est de vous préparer aux éventuelles complications pendant l'accouchement, au premier rang desquelles le besoin en sang. Lorsque cette éventualité se présente pour une femme enceinte, on lui demande de préparer à l'avance des potentiels donneurs de sang pour la mettre à l'abri des surprises désagréables et sauver ainsi sa vie et celle de son bébé, ce qui n'aurait pas été possible sans les CPN. Fidèles auditeurs, si vous souhaitez un complément d'information ou tout simplement réagir sur le thème de ce jour, vous pouvez le faire en envoyant soit un message, soit un voice par WhatsApp au 695 14 63 62, 695 14 63 62. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Maxino La Technique, David Bayan La Coordination et moi, Steph Ebi, au micro de présentation. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous avez la possibilité de nous écouter et de nous réécouter sur Internet à l'adresse www.radioserré.com. En attendant de nous retrouver pour une prochaine édition, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.